la bande originale. Soyez les bienvenus avec les Lacadou de Boudadi.
Bonjour à tous.
Tanguy Pasturo sera là tout à l'heure.
Bonjour.
Frédéric Sigrist est déjà là. Daniel Morin. Albert Algou. Et
bonjour.
Notre invité est André Dana.
Bonjour
André.
Bonjour.
Merci de venir avec votre chien. Donc on est bien d'accord parce que vous avez une espèce de touffe posée contre votre poitrine que vous allez caresser pendant toute l'émission. On est d'accord.
Alors ça.
Comment
quoi
ça, bah si, c'est une touffe.
Ça s'appelle un paillasson pectoral, une touffe.
Ça s'appelle un chien. Quel est son nom?
Il s'appelle Wolfie, comme un petit loup.
Évidemment.
Voilà.
Évidemment, mais il est tout minot, non?
Non, en fait, c'est
un chiot.
Ouais,
il est au taquet, là.
C'est sa taille adulte, quand même.
Là, il est au max?
Ouais.
Très bien, c'est bien, il rentre dans le sac, quand même.
Voilà, c'est
pas. Il y a des gens qui posent des questions pour vous, Nagui. Hein.
Mais on m'appelle Minot quand même. Audrey, vous êtes au théâtre des Mathurins dans une pièce bouleversante que. Et d'ailleurs, c'est la première chose que je vous ai dite lorsqu'on s'est vu après votre spectacle. Indocile. Vous n'êtes c'est pas vraiment un seul en scène. Hein. Vous êtes aux côtés de Lucie Antunes qui, elle.
Antunes,
il faut dire.
Qui
ah, pardon.
Lucie Antunes, qui est une.
Joueuse de batterie.
Joueuse de batterie exceptionnelle. Vraiment, mais elle est complètement dingue.
Bah non, d'accord, mais je savais pas qu'il fallait dire
Antunes. Bah voilà, c'est tout.
Ah bon, okay, ça
comme ça, bien. Comme ça, on aura bien parlé de son nom de famille longtemps.
Moi, j'ai eu l'occasion de la voir dans des performances avec des artistes d'art contemporain ou seule à la batterie. Elle est complètement dingue. Elle
en
est
fait,
géniale.
Elle est incroyable parce qu'elle est beaucoup plus que batteuse. Elle joue pas, elle danse, elle contourne, elle se sert d'archets, d'aiguilles à tricoter.
C'est ça. Elle caresse aussi les cymbales. C'est-à-dire, il y a toute une chorégraphie autour de la batterie et pas uniquement donner un tempo. Avant d'expliquer la présence de cette batterie, parce que on est peut-être allé un peu vite en besogne, parlons d'un dossier qui est une pièce que vous portez et qui est en majorité très personnelle, même si c'est co-écrit à partir d'un roman, c'est ça, de Muriel Magellan?
Non, en fait, Muriel Magellan, il y a quelques portraits, en fait, c'est l'histoire d'une...
C'est une galerie de portraits, de 14 portraits.
Voilà, et c'est l'histoire d'une petite fille qui veut devenir peintre. Et donc, il y a des allers-retours entre son enfance, quelque peu chaotique, et les portraits qu'elle peint, qui s'incarne vivant sur scène.
Mais c'est l'histoire d'une petite fille qui devient femme, avec tout son parcours scolaire. La fameuse phrase dite par son père, et qui est même plus qu'une phrase que tous les enfants ont dû entendre une fois dans leur vie. Passe d'abord ton bac, on verra après. Sauf que là, c'est un véritable pacte, c'est un deal qui est fait avec votre papa. Et là, c'est la vérité vraie de votre vie personnelle. Vous rêviez... Bon, vous, à l'époque, c'était théâtre. Là, ça a été transposé en peinture.
Oui, j'ai fait une métaphore, en fait, avec la peinture. Parce que, du coup, on parle de l'art en général. Et que, mais évidemment, c'est du théâtre. Dont je parle, et l'envie de mettre de la couleur dans la vie des gens, c'est exactement ce que j'ai envie de faire moi en tant qu'actrice ou scénariste ou metteur en scène.
Vous avez exprimé l'envie de vivre une passion artistique, que ce soit la peinture, la musique, le théâtre, le cinéma, la danse, peu importe, en tout cas vous avez exprimé cette intention. Et votre papa, rédacteur dans un journal féminin beaucoup plus cartésien et pragmatique, lui disait passe d'abord ton bac, on verra après. Donc vous avez pris ça au pied de la lettre.
C'est plus vicieux que ça, c'est tu feras ce que tu veux, mais tu passes ton bac avant.
La promesse
voilà.
est faite.
Voilà.
Et ce deal n'est pas vraiment tenu, n'est pas vraiment respecté. Et vous, premier portrait, et puis il y a une lettre dinguissime que vous écrivez à votre père, ou du moins la réponse faite par votre père est d'une... J'allais dire d'une violence extrême, puisque vous...
C'est lui qui respecte pas le deal. Moi, je le passe, mon bac.
C'est ça.
Mais lui, d'un coup, une fois que le bac est en poche, il espère qu'on fasse de grandes études. Voilà.
Et donc là, vous lui écrivez une lettre en disant « C'était pas ce qu'on s'était dit, c'était pas comme ça, c'était pas le deal. Tu m'avais dit « Tu feras ce que tu veux si tu passes le bac. J'ai le bac avec mention. Maintenant que je l'ai, je veux faire ce que je veux. Tu n'as pas respecté le deal ni la promesse faite. » Et là, il vous renvoie. Et ça, c'est vrai. Vous l'avez vraiment vécu.
Mes trois pages de lettres entièrement corrigées. Voilà.
Il corrige les fautes.
Il corrige
les fautes d'orthographe ou de syntaxe.
Voilà, pointe les ratures, les tâches et tout ça. Parce que, voilà,
et signe et rajoute une phrase extrêmement violente, une phrase qui tue.
Et si l'art de vivre était l'art d'écrire, médite cela, ma fille.
Ce à quoi vous avez
déjà l'aplomb... D'ailleurs, il commence à lui signifier en corrigeant cette lettre. Il vous signifie, Audrey, en fait, que vous n'êtes pas d'égal à égal dans la conversation.
Tout d'abord, et que je n'ai manifestement pas fait assez d'études pour avoir appris à manier la langue française.
Donc il faut continuer.
Voilà, bien sûr, c'est ça qu'il cherche à dire.
Et là, vous lui répondez, parce qu'il faut un aplomb quand même costaud pour une forme de rébellion, en tout cas. Vous répondez à votre père...
Et si l'art de vivre était celui d'élever ses enfants.
C'est ça.
Mais dites cela, papa. Oui, c'est vrai, tout ça est vrai, en fait. J'ai vraiment... On parle beaucoup d'éducation dans ce spectacle, c'est...
Oui, alors... parce que indocile, étymologiquement, c'est ça. C'est, ce ça qu'on veut... a,
c'est
on a
celui
du mal
qui
à
ne veut pas apprendre, ouais. Voilà. Et étonnamment, ce père va me dire, enfant, quand il est convoqué à l'école par la directrice qui lui dit que sa fille est indocile, il est le premier à me dire bravo, parce que c'était un marcheur de côté, mon père, et que d'entendre que sa fille a dit « on ne me parle pas comme ça », il se dit « ça y est, elle a tout compris, elle va s'en sortir ». Et à la fois, son souhait le plus cher est que j'apprenne, et que j'apprenne, et que j'apprenne, et que j'apprenne, même dans un contexte qui ne me convient pas du tout, parce qu'elle est assise à une table 8 heures par jour. Pour moi, c'est pas possible physiquement. Je n'y arrive pas, je n'ai jamais réussi. L'école était un cauchemar de bout en bout. Non mais c'est vrai, hein, je l'ai... Alors merci d'apprendre aux enfants à lire, à écrire. Merci évidemment à l'éducation de sortir beaucoup de gens de leurs conditions. Mais pour moi, le système scolaire français n'est pas adapté, en tout cas à tout le monde. Il y a des comportements très scolaires, des gens qui sont très dociles, qui tiennent bien en place, quoi. Mon petit garçon de 8 ans, là, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit ce qui serait génial, c'est qu'ils mettent des pédales sous les chaises pour qu'on puisse faire quelque chose avec nos jambes. Je trouve ça génial. Je lance le message à l'éducation nationale. Mettez des pédales, mais silencieuses, qui pourraient générer de l'électricité, ça participerait.
Ça éclairerait la classe.
Voilà.
On verrait en plus s'ils arrêtent de pédaler, si la lumière descend.
Voilà,
ou pas.
Exactement.
Donc, c'est pour envie de se dépenser. En matière de concentration, c'est peut-être pas l'idéal, mais ce qui est étonnant, c'est que.
Je suis désolé. Pédale sur un vélo en salle et tu verras, tu moulines dans ta tête aussi. Et
tu réfléchis. Non,
tu
moulines
parce que tu veux que ça s'arrête.
Oui. Non, mais ça peut convenir à certains et pas à tout le monde. C'est un peu le problème.
Mais on
de
les
toute
met,
façon.
Tu t'en sers ou pas?
C'est un peu le problème à l'école, c'est qu'on essaie de mettre une règle un peu pour tous et qui marche pas forcément. Mais ce qui est étonnant dans votre histoire, en fait, Audrey Dana, c'est que votre père vous donne tous les éléments pour être un peu rebelle et en même temps, elle s'étonne que vous ne soyez pas une élève heureuse en classe et scolaire parce que il a mis en vous déjà tous les éléments qui fait que l'école, ça c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir l'accepter avec ses contraintes, en fait.
Mais en fait, ça dépend vraiment d'où on vient. Je sais que mon père, il a été élevé de façon extrêmement modeste, qu'il est né en Tunisie, qu'il est arrivé à l'âge de 6 ans en France. Donc pour lui, l'école, c'était sa voie de sortie. Mmh. Donc il pouvait pas envisager. Puis quand un papa entend « je veux être actrice », il peut que avoir peur. Il se dit « elle va se casser les dents comme tout le monde, elle va pas y arriver ». Donc il peut pas souhaiter ça.
Il y a un côté, c'est pas sérieux. Un métier artistique, c'est pas sérieux. Il faut avoir un diplôme déjà.
Exactement. Puis il a vraiment été prof de français, prof de philo, prof d'histoire, prof de géo, prof d'espagnol. Donc il a tellement été prof et il a tellement fait d'études que pour lui, c'était pas envisageable. Surtout que j'étais pas trop mauvaise quand je m'y mettais.
D'où la mention. C'est pour ça que j'ai précisé que le bac avait été eu avec mention. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire vraie. Indocile, facile ou pas à éduquer, comment elle va s'en sortir? Il y a tout ce parcours, ces 14 portraits. C'est un spectacle qui est à mi-chemin entre le one woman show, la chorégraphie, la danse. Il y a des effets de couleurs, justement. Il y a la musique, évidemment, ce tempo, ce rythme, ce battement,
mais au sens... En fait, on peut pas le mettre dans une boîte, le spectacle.
Mais c'est ça qui est formidable. Il y a même un petit passage que je rapprocherai des chatouilles d'Andrea Bescon, et on va en parler tout à l'heure, parce que c'est aussi l'un des temps forts de ce spectacle. Audrey Dana est au Théâtre des Mathurins, et je vous encourage sincèrement à aller l'applaudir. Ça finit le 18 novembre, donc il faut vraiment se dépêcher. J'espère que vous avez bien compris pourquoi.
Yes.
Jean-Philippe Manœuvre.
J'adore. Le jeu de la devinette.
J'espère que vous avez bien compris pourquoi Jean-Philippe Manœuvre. Audrey Dana était notre invité et il faut aller la voir.
Putain, Nagui, t'as du mal à dire mon nom.
Ouais, mal,
avec
ouais.
Mon cousin Philippe, mes Ray-Ban et mon Perfecto, je suis peut-être le plus vieil ado du monde ou même de l'univers. Mais bien que j'ai toujours écouté AC/DC ou Metallica, les oreilles collées à mes amplis, je suis pas encore devenu complètement sourdingue. Et donc, Nagui, avant l'émission, je t'ai entendu pas papoter avec Leïla, tu lui disais « Dis donc, meuf, j'ai rien compris du tout à un docile qu'on peut pas mettre dans une boîte, comme elle disait à l'instant. Entre les 14 personnages incarnés par Audrey Dana, je suis complètement paumé. Alors je compte sur toi, Leïla, pour l'interview, sinon tu perds ton poste à France 2, la nationalité française, et je te coupe ta frange !» Ce à quoi Leïla a répondu.
Là, elle a réagi,
Elle a réagi, mais super bien. T'inquiète pas, Nagui, qu'elle a dit. Les topoïs de ce show, misère sociale, cancer, drogue, pédophilie, harcèlement moral et sexuel, enfants livrés à eux-mêmes, sans parler de l'éthos de tous les personnages. Ouais. J'en fais mon affaire, car ça touche grave mon ressenti. Donc, Nagui, quand tu me demandais si je sais pourquoi on reçoit Audrey Dana, ça me fout vraiment les boules. Big balls! Pour ma part, Audrey, dans ton One Woman, il y a une meuf qui m'a complètement scotché, completely scotched. C'est ta batteuse, Lucie Antunes, dont on parlait à l'instant, putain, quand elle frotte ses cymbales avec un archet de violon, quand elle caresse les peaux des percus avec des aiguilles à tricoter, ça me fout les poils. Tous ces trucs géniaux à Lucie, ça me fait penser à ceux de Rick Allen, le batteur de Def Leppard, qui est après devenu manchot le 31 décembre 1984 dans un accident de bagnole, bloody car crash. C'était confectionner une batterie pour pouvoir jouer sur la caisse claire avec son pied. À côté de Lucie, les plus grands batteurs comme John Bonham, le drummer de Led Zepp, m'ont étouffé dans son vomi le 24 septembre 1980, ou Kiss Moon, décédé le 7 septembre 1978 avec 32 pilules anti-alcoolisme, pire que Daniel Morin dans le coco. Comparé à Lucie, c'était des joueurs de tambourin. Voilà Audrey, un dernier truc, comme avec sa batterie, Lucie incarne et souligne tes émotions et celles de tes personnages, je me dis que dans ta tête ça doit aussi aller les décibels, alors m'en veux pas si je pense que tu vas être complètement frappé, fracassé. Courage les kids, bonne émission.
Merci Albert Algout. La ville
originale, sur France Inter.
Et Leïla, quand on vous annonçait la venue d'Audrey Dana dans cette émission, vos oreilles ont sifflé.
Et oui, quand je pense à vous Audrey Dana, j'entends ça.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee.
Ah ouais, t'es au théâtre avec lui.
Quelque chose en nous de Tennessee. En effet, en 2011, comme vient de le dire Nagui, vous êtes sur scène avec le grand Johnny dans le paradis sur terre de Tennessee Williams. Comme
d'où
ça, on fait une petite vanne, comme voilà. Ça a l'air de rien. C'était au théâtre Édouard VII avec Julien Cottreau, qui est un clown et assez exceptionnel. Et là, lors d'une représentation, vous vous évanouissez. Et là, plus de force. De l'épuisement, vous avez trop donné, vous êtes...
Non, je vais vous raconter la vérité, en fait, sur cette histoire. C'est qu'il y avait des parties très violentes dans le spectacle, et notamment l'une d'entre elles où Johnny me jetait au sol, en fait. Et donc, il faisait toujours très, très attention à moi. C'est un super partenaire de jeu.
Bienveillant, oui.
Très, très bienveillant. Mmh. Et sauf qu'une fois, je suis mal tombée et je me suis déboîté l'épaule. Et la folie du théâtre fait que je me reboîte l'épaule toute seule, hein, parce que c'est-à-dire que je sens le danger, je manipule le truc et je remets mon épaule en place très forte.
Comment on se reboîte une épaule toute seule?
Je ne sais pas. C'est la magie du théâtre.
Mel Gibson,
Au théâtre, on fait des trucs.
Fait on est sur scène.
Complètement dingue.
En fait, pour être clair, vous avez mal à l'épaule, vous sentez un truc bizarre.
Je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Je bouge, elle n'est pas à sa place. Tlac, bam, et je la remets en place. En fait. Voilà. Et donc, le lendemain, j'ai hyper mal parce que forcément, ça a quand même créé une inflammation. J'appelle Bernard Murat en catastrophe en disant « Qu'est-ce que je fais ? J'ai deux représentations aujourd'hui, c'est samedi. » Il me dit « Tu cours à l'hôpital américain et tu vas aller voir. » Alors, il confirme que je me suis déboîtée, mais que j'ai remis mon épaule en place, que c'est très inflammé. Il me dit « Donc, il n'y a rien à faire. » Je dis « Ok, mais là, je souffre le martyr. » Et j'ai 4h20 de spectacle aujourd'hui. C'était 2h10 de spectacle. Donc, 4h20 de représentation. Je ne quittais pas le plateau. Johnny était un tableau sur deux et Julien Cottreau un tableau sur deux. Et moi, j'étais de tous les tableaux. Et je montais, je descendais les escaliers. Et voilà. Il me dit, je vais vous donner un médicament.
Oui, parce que c'était un décor qui se passait
sur deux étages, exactement. Voilà. Et ouais. je dis, il faut juste faire très attention aux médicaments que vous me donnez, parce que je suis extrêmement sensible à la chimie. Je suis très sensible à la chimie, je supporte limite les doliprane. C'est pas une blague.
Et donc vous êtes plutôt dans l'homéopathie pour vous soigner, ce qui n'est pas, il n'y a pas vraiment d'anti-inflammatoire.
Les huiles essentielles, tout ça, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a 5 ans, je ne les connaissais pas encore assez bien pour me traiter. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de la chimie et je le clame haut et fort. J'ai tout ce qu'il faut dans ma cuisine. Mais ça a été le dernier épisode médicament de ma vie. Il m'a donné un médicament. J'ai dit, vous êtes sûr que ça craint pas ce médoc? Il me dit, non, il n'y a pas de souci. Moi-même, je suis chirurgien. J'ai opéré en prenant ce médicament pendant 3 mois. Donc, je pense que jouer au théâtre, vous allez pouvoir le faire. Et un des effets secondaires de ce médicament, c'est les paniques attaques. Comme j'ai tous les effets secondaires de tous les médicaments, j'ai même pas supporté la pilule. Moi, à 17 ans, on me l'a donnée. J'étais au bout de 3 jours possédée par le diable. C'est pas une blague. Hein. Et j'ai dit,
mais
il y a
je
un
suis
souci.
Là.
Mais j'ai arrêté en fait. Hein. J'ai tout simplement arrêté la pilule. Et voilà, c'est un des effets secondaires de ce médicament, ce sont les paniques attaques.
Alors c'est quoi des paniques attaques ?
Les paniques attaques, c'est ton cerveau qui envoie l'information à ton corps que tu es en train de mourir. Donc ton cœur arrête d'irriguer les extrémités et va irriguer les organes vitaux en mode survival. Et c'est ce qui m'est arrivé sur scène, parce qu'au bout de 3 jours de traitement, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas avec ce médicament. J'étais comme dopée, quoi. Mais dopée. C'est-à-dire, j'avais plus besoin de dormir. Normalement, je sortais de la pièce rincée. Là, j'aurais pu en jouer 3-4 d'affilée. Je me dis, attends, au bout de 3 jours, c'est quand même bizarre, je veux bien cette bonne humeur, mais il y a un truc. J'ai arrêté et au 4e jour, je monte sur scène. Au bout de 5 minutes de spectacle, je suis en train de faire une panique attaque. Et quand on a compris ce processus cérébral, c'est possible, avec une psychologie très costaud, d'empêcher la panique attaque de s'enclencher. Mais quand on ne sait pas, on se fait avoir.
Oui.
Donc il y a un docteur qui est monté sur scène, parce que j'ai quand même tenu,
heureusement.
Alors, attendez, vous voulez l'anecdote rigolote, c'est que je tiens 30 minutes. Et comme Johnny a l'idée, tous les soirs, je lui disais, surprends-moi.
J'aime bien ce que je trouve très mignon.
Oui, j'ai précisé.
Précisé à l'idée, parce que c'est vrai qu'on connaît tellement d'autres Johnny.
C'est vrai. Non, je disais à Johnny tous les soirs, surprends-moi, je vais te surprendre, amusons-nous pour qu'on reste toujours sur le qui-vive, que ça soit toujours vivant. Et donc, quand il m'a vu à 4 pattes.
Vous jouez fort, hein.
Non. J'étais à 4 pattes, hein. Je pouvais plus tenir debout, mais je continue à faire mon texte. Une fille très professionnelle ou docile, je sais pas. Je dis mon texte à 4 pattes. Il se met dos au public, il me regarde. Genre, t'exagères, Audrey. Dis donc, ta surprise, elle est un peu pourrie ce soir.
Tu vas au bout de la vanne.
Non, mais vraiment, il a cru que je déconnais. Et donc, il a fallu la fermeture du premier rideau au bout de 30 minutes de spectacle pour que là, je dise, appelez mes enfants. J'ai même pas dit appeler un médecin. Appelez mes enfants, je suis en train de mourir. Pour moi, c'était très clair. Et il y a un médecin qui est arrivé, qui m'a regardé, qui m'a dit, tout va bien. Je lui ai dit, évidemment, juste avant de crever, on va pas te dire tout va mal, tu vois. Et il a balancé un verre d'eau glacée et je suis revenue à mes esprits.
Quoi, sur le visage?
Ouais. Je suis revenue, donc c'est un bon truc en cas de panique attaque, de l'eau très glacée, ça fait revenir. J'ai mis 1 an à me débarrasser de ces paniques attaques, à dégager le sillon creusé dans ma psyché qui faisait que dès que j'étais près d'un théâtre, boum, je repartais. Enfin, ça a été hyper violent, mais j'ai arrêté les médicaments.
C'est un spécifique à Amsterdam qui a fait le même effet.
Pardon ? Comment ?
Un space cake à Amsterdam.
Oui, voilà.
Exactement le même effet.
Oui, voilà. Ça peut aussi. Non pas que j'ai déjà goûté un space cake.
Non, mais c'est quelqu'un qui me l'avait fait manger à mon insu.
Une année de traumatisme, en fait.
J'ai été fragilisée extrêmement pendant une année, mais rien n'arrive par hasard. En tout cas,
les limites de la chimie, en tout cas, c'est important de le rappeler, parce que c'est vrai qu'on peut aussi se soigner.
Non, mais surtout en France, s'il vous plaît, quoi. C'est tellement abusé. C'est le premier pays consommateur d'antidépresseurs, de somnifères, de machins, de trucs.
Non, mais j'imagine qu'il y a des pathologies, en revanche, que vous êtes obligé de soigner par de la chimie.
Bien sûr. Ouais. Non, mais bien sûr qu'il y a des pathologies et que la médecine allopathique aujourd'hui sauve beaucoup de vies. Mais il faut savoir que 60% des maladies sur Terre sont des maladies iatrogènes, c'est-à-dire des maladies dues aux effets secondaires des médicaments. Voilà. Et que les médicaments, ils sont beaucoup vendus parce que ça va te soigner ton mal de crâne, mais ça va te créer un problème au ventre, donc tu vas prendre un autre médicament et ainsi de suite.
On sent que
vous avez bossé le dossier.
Non, mais c'est une des choses qui participe à combien notre Terre va mal, et je suis maman et je souhaite un avenir meilleur à nos enfants.
C'est-à-dire que vos enfants, vous les soignez que par homéopathie ou l'huile essentielle.
Ouais.
Et les vaccins.
Et puis, non, me lancez pas là-dessus, je vous en supplie.
Ça veut dire que non, pas de vaccin.
Non, mais puis c'est la plus grosse aberration, là, le nouveau vaccin qui va sortir, 11 vaccins en un truc. C'est un truc qui est fait pour engraisser les poches des industries pharmaceutiques.
Attention, notre boîte mail est en train d'exploser.
Je suis désolée, je peux pas, vous me donnez la parole, je peux pas ne pas le dire.
La poliomyélite, par exemple, quand on était gosse, il y a des gosses polio à l'école, c'est grâce à la vaccination que la poliomyélite a régressé.
Je ne jette pas tous les vaccins.
Non,
mais
il faut nuancer quand même. Albert.
Je parle des 11 vaccins.
En un coup.
Voilà, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, c'est obligatoire.
Tu peux pas dire que tous les corps sont prêts à recevoir.
Bah, si, 5 légumes, 5 fruits,
voilà,
et 11 vaccins.
11 vaccins, ouais, c'est pas mal. Voilà.
Mais le BCG, par exemple, bon.
Non, mais ça veut dire.
T'as des gens qui font des allergies aux vaccins, donc il faut un par un, oui, 11 d'un coup, c'est super.
Ça veut dire, moi, je suis pas parent, donc je me rends pas bien compte. Ça veut dire que ce vaccin obligatoire de 11, contre 11 maladies, c'est bien ça l'idée. Ça veut dire que si on vaccine pas ses enfants, on peut pas les mettre ni à la crèche, ni à l'école. Quelle est la réglementation en vigueur ?
On ne les vérifie pas.
Je ne sais pas comment ils s'y prennent. Moi, je sais qu'en tout cas, ça ne passera pas par le corps de mes enfants, c'est sûr. Mmh. Et s'ils doivent être déscolarisés parce qu'on me dit à l'école, ah, mais il a pas séance de vaccin, eh ben, c'est pas grave, je le déscolarise. Mais non. Ah ouais. Non, non, non. Il faut quand même rappeler que Bayer s'est marié avec Monsanto, hein. Juste.
D'ailleurs, industrie pharmaceutique et voilà. Monsanto.
Très bon club de foot aussi.
Mais l'agent orange,
le Bayern de Munich.
Non, mais juste, voilà.
Très efficace.
Ah oui, vous êtes vent debout contre.
Bah, ça a l'air.
Et ça va plus loin que la médecine dans votre vie. Je sens que vous êtes très préoccupé par ces sujets-là. Donc, c'est quoi? C'est l'alimentation? C'est l'écologie, quand même. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette prise de conscience.
Quand vous mangez des produits frais, vous êtes venu avec votre casse-croûte, là.
Voilà, exactement. En cas de, voilà.
Un petit creux, hop, un petit chien.
Comment ne pas se préoccuper de ce qui se passe en ce moment? On parle de beaucoup de choses, sauf ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire l'avenir de nos enfants. Et je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Je crois en la révolution verte. Je pense que nous sommes les consommateurs et qu'on a la possibilité de changer les choses. Mais que si on attend après les messieurs qui sont au pouvoir, on est obligé de dire les messieurs parce que nous sommes tellement peu représentés.
En tant que femmes.
Et voilà. Et force est de constater quand même que le monde dirigé par les hommes, ben, c'est pas super.
Enfin, la dernière fois qu'il y avait qu'un ministre a commandé 80 millions de vaccins qui ont été jetés à la poubelle, c'était pas un homme.
Non, d'accord. Moi, je dis qu'une femme toute seule au milieu de plein de mecs, ça peut que être la cata. Comment est-ce qu'elle a fait pour s'imposer?
Ah bah, c'est Roselyne, hein.
Elle a dû jouer. Non, mais s'il y avait autant de femmes que d'hommes.
Voilà, on sait pas si le monde gouverné par les femmes serait meilleur, mais on se dit qu'au moins pour arriver à quelque chose de meilleur, autant être
de la protection. Il y a un sens de la protection.
Je pense qu'il y a une force des lobbies, hommes, femmes, qui sont sous l'influence des industries pharmaceutiques, je suis totalement d'accord.
C'est sûr et certain. Mais ce que je veux dire, je dis pas tant les femmes que le féminin. Voilà. Ouais. Je trouve que notre terre manque de féminin, manque de douceur, manque de rondeur, et surtout on ne pense pas plus loin que le bout de son nez. Or, quand même, si on regarde un tout petit peu les pronostics quant à la survie de l'humanité, on vit quelque chose de très nouveau quand même, nous les hommes là. Hein. On est face à quelque chose de terrible. Et étant mère de famille, oui, j'ai très 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 peur, et je sais que ça passe par nous, le peuple, en fait, qui changeons notre manière de manger, de nous soigner, etc.
Vous pensez pas que c'est trop tard, André?
Je suis obligée d'avoir de l'espoir, sinon je me jette par la fenêtre.
Évidemment.
Donc, voilà.
Comme Hubert Reeves, il avait d'espoir à ce micro.
Oh.
Il avait d'espoir en disant qu'il fallait non pas sauver la planète, mais sauver l'humanité.
Exactement, puisque la Terre s'en sortira très bien
exactement,
sans nous, hein. Aucun problème.
Pour en revenir à votre pièce Indocile, vous parlez justement de la place de la femme. Je voudrais évoquer quand même la place de votre maman, parce qu'on a beaucoup montré du doigt le père et sa lettre un peu trash, on va dire. Mais la maman s'en sort pas non plus grandie dans votre pièce.
Alors en fait, donc ce spectacle. D'abord, tout à l'heure, on a parlé de Muriel Magellan, et puis en fait, on s'est perdu. Il y a en effet certains des portraits que j'incarne vivants qui sont extraits des romans de ouais. Muriel Magellan, voilà, et que j'ai fondu à mon histoire pour créer un seul et même spectacle. Ça, c'était juste pour revenir tout à l'heure, parce que je me dis, si les gens suivent, écoutent, ils peuvent attendre quand même la suite de l'info.
Qui écoute?
On ne sait pas.
Non,
on ne sait pas.
Pas non.
Et non, le oui, en fait, je parle de ces deux parents, ce père et cette mère, qui sont des parents démissionnaires, clairement, parce que même si papa, il m'a donné des points de repère, il n'était pas présent. Il n'était pas présent à des moments, d'ailleurs, où on n'avait plus d'argent, on n'avait plus rien, etc. Il n'était pas là.
Alors, physiquement, il n'était pas là. La mère, la maman est là, mais elle n'est pas
présente. Mais elle
n'est
pas vraiment là.
Ouais, c'est ça.
Non, oui, voilà. Ma mère, on va parler des choses positives, parce que moi, j'ai fait ce spectacle pour dire merci à mes parents, parce que quelle que soit l'enfance qu'on nous offre, il y a toujours possibilité de la transformer. Et qui avait des belles choses. Ma mère ne s'occupait pas de nous. Ma mère, on ne l'intéressait pas beaucoup. On était là pour s'occuper d'elle. Donc c'est un concept inversé. Mais ma mère était très libre. Très libre. Je veux dire, elle aimait tout le monde. Elle ouvrait sa porte à tout le monde.
Elle accueillait des enfants d'Adas.
Elle accueillait des enfants d'Adas, mais pas que. Elle accueillait tout le monde. Tous ceux qui voulaient venir à la maison, tous ceux qui avaient faim, tous ceux qui avaient besoin de quelque chose. La porte était grande, grande ouverte. Elle trouvait que tout était sans aucune espèce d'importance. Quand je lui dis, maman, il y a 50 personnes à la maison, je peux pas réviser mon bac ici. S'il te plaît, loue-moi une petite chambre de bonne, surtout qu'elle avait un peu d'argent en ce moment-là. Elle refuse en me disant, qu'est-ce qu'on s'en fout du bac, chérie? Écoute. Hein, t'es bonne élève à l'école, tu l'auras de justesse, mais tu l'auras, c'est pas grave. Tu n'as pas besoin de réviser, repose-toi, fume un joint. Et, donc c'est un concept, mais
c'est
en même temps.
C'est perturbant.
c'est hyper perturbant. Mais force est de constater aujourd'hui quand même, il y a tellement de gens qui sont dans des vies étriquées parce qu'on leur a appris que c'était comme ça et pas autrement. Ben moi, je suis contente. Voilà. On m'a pas étriquée, en fait.
En fait, votre spectacle, vous dites, c'est une manière de dire merci à vos parents plus que pour régler des comptes avec vos parents.
Exactement. Ouais. Sans être dupe, moi, je suis mère de famille, je fais pas revivre ça à mes enfants. Je pense qu'on peut élever ses enfants de manière libre et ouverte sans pour autant les faire souffrir. Mais
ou sans s'inquiéter d'un photographe qui proposer à une petite fille de prendre son bain.
De faire des photos, de non-stop. Oui, ben forcément, ça a ses limites. Ma mère, en ouvrant la porte à tout le monde, ben il y avait pas des gens que bienveillants. Et moi, j'étais une petite fille, plutôt mignonne, très en manque de son papa, donc dans un grand besoin d'affection. Et non seulement elle a fait rentrer n'importe qui à la maison, mais en plus, elle ne m'a pas entendue quand j'envoyais des signaux de détresse. Donc ça, c'est assez terrible.
C'est ce que j'appelais
le moment des chatouilles.
Le moment des chatouilles d'Andréa Bescon, parce que c'est vrai que là, en ce moment, la parole, et tant mieux, se libère sur le harcèlement, sur les viols, sur des actes de pédophilie. Dans votre cinéma très sexué, mais au bon sens du terme, hein, puisque vous faites, il y a des films de genre et vous faites les films autour du genre féminin ou masculin, tout ce qui se passe dans le cinéma mondial et qui a forcément des échos dans le cinéma français sur le harcèlement, les comédiennes qui se retrouvent avec des mains de producteurs sur les cuisses, une main de réalisateur en disant si tu veux le rôle, tu sais ce qu'il va falloir faire, ou alors tiens c'est pour des essais, déshabille-toi, on verra si tu es faite ou pas pour le rôle. Toute cette ces langues qui se délient avec le fameux hashtag balance ton porc qui est une bonne idée au point de départ, mais après le problème c'est que la justice ne se fait pas sur Twitter et elle doit se faire ailleurs. Vous en pensez quoi? Vous avez forcément une opinion très précise.
Évidemment, bien sûr, je suis très très choquée en fait de voir que ça a mis tant de temps. C'est ça qui me fait mal en fait, moi, c'est de me dire d'un seul coup, toutes les langues se délient, mais vous étiez où avant? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé? Pourquoi est-ce que ce mec a pu continuer à bosser comme il a continué à bosser?
C'est compliqué aussi d'accuser celles qui, là, ont trouvé le courage aujourd'hui de parler, de ne pas l'avoir fait
avant.
Non,
je n'accuse absolument pas. C'est un fait.
C'est juste un constat qui me...
Audrey, pardon, vous l'évoquez dans votre spectacle, c'est pour ça que je me permets de le dire. Le photographe, le salaud qui a abusé de vous quand vous étiez petite fille, son arme, c'était aussi le silence.
Absolument.
C'était que personne ne vous écoutait ou vous ne parliez pas.
Mais je savais pas, moi, à cet âge-là, parce qu'on peut pas comprendre, on peut pas savoir que quelqu'un. Moi, je savais qu'il y avait un truc pas normal. La chose pas normale, c'est que cet homme me désirait sexuellement alors que j'étais une enfant. Mais comme j'étais une enfant, je ne savais pas ce que c'était le sexe. Donc, je pouvais pas dire, maman, cet homme me désire sexuellement et ça n'est pas normal. Donc, j'ai cherché comment m'exprimer. J'ai dit, maman, j'aime pas être toute seule avec lui. Je pense que c'était très clair et ma mère m'a pas entendu.
Mais adulte, on peut aussi avoir du mal à dire.
Mais complètement. Mais c'est ça ma tristesse en fait. Elle n'est pas du tout quant au fait que enfin il y a des femmes qui parlent.
Non, ce qui est terrible, c'est l'entourage de Weinstein.
C'est
qui
le monde
qui est
dans lequel on vit. Et comme ce sont les mecs qui sont au poste de haute responsabilité à 90%, les femmes ont peur. Et surtout, ces mecs-là savent à qui s'adresser. Ils vont pas aller s'adresser et venir harceler une fille qui va crier tellement fort et prévenir tellement tout le monde qu'ils vont se mettre en danger. Ils vont chercher
une fragile.
Voilà.
Je suis contente mouvement de survie, quoi. C'est
que
un moment
les paroles se libèrent, parce que ça veut dire quoi? Le prochain mec aura envie de faire ça, il va flipper de retrouver son nom sur Twitter.
Exactement.
Et ben ça me fait plaisir. Voilà.
Au Théâtre des Mathurins jusqu'au 18 novembre, Audrey Dana avec Lucie Antunes. Ça s'appelle Indocile et on vous encourage vivement à y aller. Voici l'humeur de Frédéric Siglis.
Bonjour à tous, bonjour Audrey.
Bonjour.
Pardonnez-moi de plomber l'ambiance, hein. Je sais que sur Inter, le cocktail panique attaque, apocalypse, enfance difficile, exclusion et trauma parentaux, c'est la recette d'une soirée réussie chez le Radler. Mais permettez-moi de recentrer le débat sur un sujet qui nous touche malheureusement tous, la quarantaine. Oui, car dans quelques jours, je vais avoir 40 ans Et...
Ah, mais je croyais que tu les avais déjà.
Non.
T'es quand même tapé. Et... Hein.
Oui, je sais, mais c'est votre présence qui est sûrement pour beaucoup. Hein.
L'avantage, c'est que tu les fais déjà.
Voilà. Et ben voilà, justement, mes 40 ans, je le vis. Bah, déjà, je le vis, c'est bien. Non, c'est vrai. J'ai conscience que me plaindre de mes 40 ans devant le public, hein, qui a la gentillesse de venir nous voir chaque matin, c'est un petit peu comme se plaindre d'un panari devant un cul-de-jatte. Hein. Mais quand même, ces 40 ans, ça me pose question. Ah bon. À un moment, je me suis dit, je vais demander des conseils à Ganache, qui les a eu deux fois et demi, ces 40 ans.
C'est vrai.
Alors, quand j'ai réalisé, mais voyons Frédéric, quel imbécile tu fais. Tu officies sur une station de radio qui a la solution à tous les problèmes. Cette antenne, c'est un peu une pharmacie des âmes où les médicaments génériques sont des génériques d'émissions. Des émissions qui t'apprennent à être mieux dans ta peau. Des émissions comme celle-ci.
Ali.
Bonjour, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Ça va mieux quand ça s'arrête. Selon une étude menée par des sexagénaires, des chercheurs de l'université Skorbut en Scandinavie, 99,6% des sexagénaires disent être passés par la quarantaine. Qu'est-ce qui explique cet engouement pour cette période de la vie? En quoi avoir 40 ans est devenu un passage obligé pour ceux qui se destinent à devenir de futurs seniors? Ou est-ce un effet de mode ou une tendance en train de s'installer? On évoquera bien évidemment tous les symptômes liés à la crise de la quarantaine, prise de poids, perte de cheveux, les séparations conjugale, les achats compulsifs d'automobiles et la pratique des sports extrêmes. Sans oublier, bien entendu, le fameux démon de midi qui, avec l'allongement de l'espérance de vie, risque bientôt de devenir le démon de 11h15. Question témoignage au 01 45 24 7000, ça va mieux quand ça s'arrête à radiofrance.com, sans oublier notre page Facebook. À votre service ce matin, la psychiatre, comédienne, réalisatrice et parfois carreleur au black, Audrey Dana. Sans oublier le magazine Santé, Quinoa et Bienveillance, notre partenaire du jour. Bienvenue dans Ça va mieux quand ça s'arrête. Le quotidien, comment ça marche?
Ça va mieux quand ça s'arrête, Samy Rivoli.
Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne.
Bonjour.
Comment allez-vous ce matin, Evelyne?
Je comprenais pas.
Pas très bien. Même si ça en fait rire certains, mon chien est mort ce matin et mon mari...
Parfait, Evelyne. Vous aviez une question courte et précise, je crois.
Oui, absolument. J'aurais voulu savoir si tout le monde pouvait attraper la quarantaine et sur le long terme, si on en mourait.
Merci, Evelyne. Docteur Dana, est-ce que tout le monde peut contracter la quarantaine?
Alors non, il y a certains heureux élus qui ne contractent pas la quarantaine, hein, qui nous quittent avant. Et puis, ils ont beaucoup de chance, ils n'atteignent pas cette barre limite un petit peu où on passe de l'autre côté, n'est-ce pas, celui de la décrépitude. Alors comment ça finit? Ça finit mal, en général, ça finit mal. On prend du poids. On perd la couleur de ses cheveux. Le moral est en berne. Sa sexualité aussi, d'ailleurs, ça va de pair. Donc, je recommande à tout le monde, vivement, d'essayer d'éviter cette étape fatale de la
D'accord,
vie.
Donc, c'est quelque part très rassurant. Hein, la quarantaine n'est pas un diplôme obligatoire
non.
pour quiconque serait intéressé par la cinquantaine, par exemple.
Mais non, vous pouvez tout à fait éviter, vous arrêter à 30.
Très bien. Autre question, docteur Dana. Vu que la quarantaine a la réputation d'être un mauvais moment à passer, hein, vous l'avez dit, serait-il possible de la vivre à 20 ans, histoire d'en être débarrassé?
Je propose de... Non, complètement. Non, on ne peut pas la vivre à 20 ans. Je suis désolée. Je suis désolée. Non, on ne peut pas la vivre à 20 ans. On ne peut
pour
pas
les auditeurs qui pensaient que c'était possible, ça n'est pas possible.
À 20 ans, en plus, on est trop cons. Donc, on ne peut pas. Non, c'est vrai, à 20 ans, non, on ne peut pas. En revanche, on peut éventuellement faire un saut dans le temps.
Oui.
Ah. Mais ça demande une certaine prise de médicaments dont on ne peut pas parler à la radio.
D'accord. Et alors, y a-t-il des plantes ou des remèdes qui aident à mieux vivre ces 40 ans? Hors antenne, vous me disiez que l'alcool vous avait personnellement aidé à mieux passer le cap.
Voilà, tout ce qui est alcool, tout ce qui est drogue, bien sûr, vous aide à mieux passer le cap. On peut oublier se réveiller un matin à 50. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Un long coma suite à une soirée un petit peu exagérée.
Alors, dernière question, docteur Dana, pour les auditeurs qui souhaiteraient savoir s'ils ont peut-être attrapé la quarantaine, y a-t-il des symptômes immédiatement reconnaissables?
Oui, absolument. On va envoyer votre photo. Et je pense que grâce à celle-ci, on aura un point de référence qui nous permettra de voir
si
nous avons
voit
ou
un
non.
point commun avec moi directement.
Voilà, c'est qu'il est passé de l'autre côté.
Merci, docteur Dana. Je rappelle que vous venez de faire paraître J'ai 39,5 au compteur aux éditions Quasar en crise. Dans Ça va mieux quand ça s'arrête, demain, on parlera des télécommandes de télévision et cette question pourquoi les êtres humains sont convaincus que quand on les secoue, ça recharge les piles? Vaste débat. Mais tout de suite, en voilà un autre qui est bien secoué. Voici Nagui et sa bande originale.
Merci. Bravo. Théo Zadana.
La bande originale.
En guest, on en a un total impro.
Cinq relances improvisées, ouais. Tu as été hyper hard.
Ouais. Hein. Ah ouais, t'es violent avec
moi. Je savais à qui il avait affaire.
Total impro. Mais vous avez fait de l'impro ?
Quand on joue au théâtre, on fait de l'impro, toujours non. Il y a plein de parties improvisées, par exemple, sur scène.
Cette scène à quatre pattes devant Johnny Hallyday, c'était une formidable impro.
Non, moi j'aime bien sortir remarqué, des sentiers battus.
Dans votre spectacle, le lancer de portable semblait être une improvisation, oui. Mais oui. Le reste me semblait pas...
Non, il y a des choses qui s'improvisent.
C'est vrai
ouais.
c'est d'autant mieux
fait
que...
Par exemple, il y a toute une séquence qui est 100% improvisée. Quand je m'en prends à la batteuse en lui disant qui a fait du bruit, etc. Voilà. C'est 100% improvisé, il n'y a pas un soir où ça se ressemble.
Ouais. Mais finalement, le plus beau compliment que l'on puisse faire à l'impro, c'est de ne pas la remarquer.
Ouais, c'est vrai. Ça m'a touché.
Et à propos, pardon, de quarantaine, c'est vrai que vous venez de passer ce cap de la quarantaine, ouais. Vous, que vous montez sur scène pour parler
de... Visiter une partie de mon enfance.
Voilà, de votre éducation. C'est le premier... Vous avez déjà évidemment fait du théâtre, du cinéma, de la réalisation, on va en parler dans quelques instants. Mais c'est votre première écriture totalement, enfin, en majorité autobiographique.
Oui, c'est la première fois
comme s'il fallait
que ça sorte. Ouais. Ouais. Alors, pour revenir plus sérieusement à la quarantaine, moi, je trouve que c'est génial de vieillir et j'ai beaucoup de mal à comprendre. Alors, je sais, j'ai que 40 ans mais j'ai.
On Pourquoi a vous une... gardez Albert quand vous
non, non, parce que c'était pour faire une référence à toi. Non, mais en fait. On vit dans un monde où c'est un problème le temps qui passe et je trouve ça fou en fait parce que le temps qui passe ça fait partie de la vie et c'est pareil quand quelqu'un meurt alors qu'il a vraiment vécu une vie exceptionnelle qu'il est arrivé
qu'il meurt
très très tard tout le monde en fait tout un pataquès à un moment ça fait partie de la vie donc vieillir mourir tout ça et
mais le rapport
et
du coup, au moi, temps Audrey c'est aussi ça dépend où on en est dans sa vie parce qu'avoir 40 ans c'est pas un drame en effet ça dépend si on
est heureux ou pas
ça dépend ce qu'on a accompli ou ce qu'on imaginait pouvoir accomplir, surtout quand on est une femme.
Bien sûr. En tout cas, je vais vous dire, moi, j'aime avoir 40 ans, j'aime le temps qui
ça
passe,
vous va bien,
j'aime
en tout cas.
Les cheveux qui blanchissent.
Mais non, mais parce que
qu'est-ce que ça veut dire, Nagui, Buvia ?
Oui. Non, mais là, il est troublé.
Buvia, je suis troublé.
Ah, oui. Bébé ?
Physiquement, vous êtes musclé, vous dansez, merci. Vous bougez, votre corps est parfait. Donc évidemment, vous dites, on vit bien la quarantaine parce que vous le vivez bien et parce que vous êtes extrêmement
Je suis plus en forme à 40 ans qu'à 20. Parce qu'en fait, je connais mieux justement l'alimentation et ce qui fait du bien à mon corps.
Vous êtes surtout mieux dans votre peau ? Peut-être
mieux dans
aussi.
Ma peau, mais mieux aussi, je suis plus, je me connais davantage. Et à 20 ans, on sait tellement peu de choses et qui veut bien nous aimer, on prend et voilà.
Et
puis à 40 ans, on apprend un peu à se connaître, on apprend un peu, voilà. Et l'alimentation est responsable de mon corps et
de votre bien-être.
J'étais pas comme ça à 20 ans.
Mais moi, j'ai hâte d'avoir 80, du coup.
Bien sûr.
Deux fois 40. On va parler justement de vos 20 ans et on va repartir dans les années 90 avant de recevoir tout à l'heure une psychothérapeute, justement. Et évoquer les problèmes, enfin l'éducation et le rapport avec les enfants. C'est Béatrice Voirin qui sera notre invitée. Mais d'abord, partons à New York dans les années 90.
Ah, ça fait bizarre d'entendre ça.
Alors, ça fait quoi d'écouter Joseph Arthur, justement ?
Bonjour !
Installez-vous, on parlera avec vous tout à l'heure, Béatrice. Mais alors, Joseph Arthur, ça vous fait quoi ?
Ça me vibre le cœur et ça me vibre partout, en fait, ouais. C'est vraiment un très 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 bon ami à moi, un artiste exceptionnel.
Que vous avez découvert à New York ?
Que j'ai découvert à New York, ouais.
Vous y faisiez quoi là-bas ? De la danse ?
J'ai créé ma compagnie de théâtre là-bas, mais moi je faisais presque rien en tant qu'artiste, mais je dirigeais des gens parce que quand je suis arrivée à New York, je me disais qu'ils avaient tellement de talent que j'avais pas du tout ma place là, moi en fait. Ils savent tous chanter, tous danser, tous tout, quoi.
Et là, pardon, vous avez 18 ans, vous partez pour New York après la lettre avec votre papa ?
C'est voilà, je voilà, exactement.
New York, comme ça, vous dites, je pars,
non, pas
je vais
du
loin.
Tout. J'ai ma grande sœur qui est là-bas et je suis censée
sœur lumière.
Voilà, grande sœur lumière. Je suis censée partir là-bas 2 mois, juste un été, pour gagner un peu d'argent et améliorer mon anglais. Et en fait, j'ai tout de suite su que je ne pourrais pas repartir dans l'autre sens. Et ce qui était fou, c'est que depuis l'âge de 8 ans, tout était ciblé pour devenir actrice. Je venais de rentrer dans une grande école de théâtre, je venais d'être engagée dans ma première pièce de théâtre et j'ai tout planté pour rester à New York. Et j'ai fait mon premier enfant là-bas. Voilà.
très rapidement.
Très jeune, ouais.
Très très jeune.
Ouais, à 20 ans.
Avec le recul.
Avec le père. Hein.
Pardon ?
Non, je croyais que vous alliez dire avec le père. Oui, oui.
Non. Avec le recul, c'était précipité, c'était.
Non, c'est exactement là où je devais être en fait. Je me suis écoutée et ça semblait fou, mais voyez, mon fils, il est arrivé, j'avais 20 ans et j'ai prévenu toute ma famille avant de le concevoir. J'ai prévenu toute ma famille. Je dis, je vais faire un bébé.
Vous avez envoyé un faire part avant.
Ouais, c'est vrai. J'ai fait ça et. Donc tout pouvait, la décision de rester, passer 2 ans là-bas, faire un enfant, tout ça pouvait sembler fou. Et pourtant c'est constitutif de toute mon existence aujourd'hui.
En 2007 vous écoutiez... Oh, can't you see? Rufus Wainwright.
Ouais.
Et là vous êtes où ? En écoutant ça, vous êtes dans une piole.
Je suis dans une piole d'hôtel en train de tourner le film de Claude Lelouch. Je suis dans les montagnes et je tourne mon premier film.
Premier rôle et premier film. Roman de gare avec Fanny Ardant et Dominique Pinon.
Exactement, avec une rencontre qui a été quand même explosive, d'improvisation. Voilà, mes essais avec Claude Lelouch pour Roman de gare. Je savais que c'est quelqu'un qui aimait sortir des sentiers battus. Et j'étais avec Thierry Frémont, j'ai fait une petite confusion. Thierry Frémont, l'acteur, ouais. Donc. Et lui, il revenait toujours au texte de base, et moi, j'en sortais.
Il est chiant pour ça. Le texte.
En tout cas, avec Claude, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça peut fonctionner comme ça, super, avec d'autres. Et donc, je le faisais chier, le pauvre, aux essais. Je lui dis, mais tu m'écoutes pas, en fait, quand je te parle, c'est ça. Et Claude riait. Et en fait, au sortir de ses essais, il m'a dit, je cherchais un couple. Et ben, en fait, le couple, je vais le créer autour de toi parce que tu seras l'actrice de mon prochain film.
Quelle grande actrice a-t-il dit, Claude Lelouch?
Ah ouais, et Claude, ouais.
En parlant de vous, il a rajouté « mais moche ».
Ouais, c'est vrai, vous avez bien fait votre boulot.
Mais moche.
Il est venu me voir au théâtre, en fait. Il est venu me voir au théâtre dans une pièce que je faisais, où on était deux sur scène. Et dans ce spectacle, j'étais vraiment dans tous mes états, et je pleurais, etc. Et donc, je finissais en vrac, quoi. Je finissais en vrac. Et donc, il a dit à l'auteur du spectacle, j'ai trouvé que c'était une très grande actrice, mais qu'est-ce qu'elle est moche, voilà.
En 2000,
on s'arrête là-dessus.
C'est pas grave, c'est sans aucune importance, surtout que ça l'a pas empêché de me faire travailler.
Plusieurs fois.
On sait qu'il a très mauvaise vue en plus.
Trois films avec Claude Lelouch. En 2014, Imani est là.
C'est puissant la musique quand même, hein, parce que ça vous fait voyager dans le temps.
Là, vous devez avoir plein d'images qui débarquent, que ce soit le flash mob au Trocadéro avec cette musique, le clip de cette chanson.
Mais c'est surtout l'écriture de Sous les jupes des filles, voilà. En fait. Hein. Je suis en pleine écriture de Sous les jupes des filles et je suis en rupture sentimentale vraiment très très violente. Un moment où je vais vraiment, je suis hyper triste. Et ce qui est drôle, c'est que toutes les filles que j'ai abordées pour faire ce film, elles étaient toutes célibataires, sauf Sylvie Testu. On était sur les 11 filles, on était 10 célibataires. Et à la sortie
Isabelle
du film...
Isabelle Adjani, Vanessa Paradis, ouais. Laetitia Casta...
Ouais.
Il y a des belles soirées.
Audrey Fleurot... Ouais,
on était toutes célibataires. Et quand le film est sorti, on était toutes maquées. C'était incroyable. Un an plus tard. Comme si cette chaîne de nanas, en fait, qui décident de parler honnêtement de qui elles sont, nous avait fait du bien.
C'est vrai que le point de départ, c'était avec Gilles Lelouch, vous avez dit, mais il y en a marre des comédies où ce sont que les hommes, les héros et les femmes ont des petits rôles autour.
Et on est toujours la femme d'eux, quoi.
Ouais.
Et là, sur Sous les jupes des filles, je me suis vachement amusée sur les camions de loge des garçons. Il y avait écrit l'avocat de. L'homme de, le mari de, c'était génial. N'avait pas de prénom. Alors on s'est amusé. Évidemment, c'est que des mecs ultra féministes qui ont fait le tournage et donc ça les fait
rire.
Ça lève ses marées.
Énorme succès, 1,5 million d'entrées, mais une critique et quelques plumes violentes.
Oui. C'est drôle parce que 1,5 million d'entrées, j'ai passé 3 semaines, je pouvais plus voir personne, je pouvais plus rien faire. J'avais l'impression d'avoir invité des gens chez moi et qu'il y en avait certains qui me disaient c'est joli et d'autres qui me disaient c'est affreux. Je l'ai très très mal vécu, mais ça a été que un temps, ça a été 3 semaines et puis après ça m'a donné envie d'être encore plus insolente. Oui, il y a eu des critiques extrêmement violentes.
Vous ont donné de la force ou qui vous ont blessé?
Non, elles m'ont blessé sur le coup, mais ça m'a donné de la force au final. Ouais, bien sûr, sinon je ne ferais pas ce que je fais sur scène, je n'aurais pas écrit si j'étais un homme après. Le prochain film s'appelle Vous les hommes, et on va beaucoup s'amuser. Oui, ça a été très violent, mais dans un sens comme dans l'autre. Je m'attendais pas, par exemple, donc j'ai cette scène d'ouverture dans Sous les jupes des filles où mon personnage, je me suis donné le personnage le plus moche et le plus ingrat et le plus difficile, enfin le moins glamour, on va dire, est très 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 hormonal. Ça arrive, il y a des femmes comme ça et j'en fais partie. Et ses règles démarrent, et comme elle est dans son lit et qu'elle est crevée et qu'elle est de mauvaise humeur, elle va mettre un tampon dans son lit. Bon, bref. Ensuite, elle s'essuie les doigts, ce sang se transforme en paillettes pour nous signifier qu'on va vraiment parler des femmes, mais que ça reste du cinéma. Bon, moi, je fais ça tout simplement pour une simple et bonne raison, c'est que mon film dure 28 jours et qu'il fallait que je le cadre dans le temps. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des femmes qui me disent cette scène est la scène la plus importante du cinéma, c'est génial d'avoir fait ça, tu ne te rends pas compte, ça fait du... Ah bon ? Non, je ne me rends pas compte en fait. C'est-à-dire que je ne me rendais pas compte dans quel monde je vivais, je crois, en faisant ce film. Je ne me rendais pas compte à quel point les gens justement étaient fermés. Et donc d'un côté, il y avait celle qui disait c'est génial, t'as osé parler des règles. Et de l'autre... pour citer par exemple les Inrecuptibles, qui sont toujours hyper sympas avec tout le monde, à se demander ce qu'ils ont créé eux pour être aussi méprisants, qui ont dit c'est la scène la plus vulgaire de toute l'histoire du cinéma.
Non mais on est tous d'accord.
Non mais bon, Marion Cotillard qui est une actrice de génie, ils vont dire d'elle dans les petits mouchoirs, Marion Cotillard a levé la barre, maintenant elle morve. Mais vraiment, mais qu'est-ce que t'as fait toi ? Qu'est-ce que t'as fait toi ? Juste par, voilà, de toute façon critique déjà. Tu fais quoi comme métier ? Je suis critique.
Aucun enfant ne dit « plus tard, quand je serai grand, je serai critique ».
Non.
C'est pas un métier
non.
qui fait
rêver. Non, mais attendez, critique, c'est pas forcément quelqu'un qui aimait des propos négatifs.
Ah, voilà, il fallait que tu aies des formes.
Non, mais bien sûr,
en fait, la critique littéraire ou la critique de spectacle, non, c'est aller être spectateur et on considère que ton avis peut valoir quelque
ça
chose.
Peut être,
on le suit, on le suit pas.
Être méchant.
Non, mais attendez, je termine, je suis pas en train de faire l'avocat. Voilà, je suis en train de dire.
Un peu quand même.
Un critique, on va pas commencer à grimacer quand on dit le mot critique.
Ouais, je
parce
suis
que
d'accord.
C'est pas juste.
Henri Janson était un critique.
C'est pas juste.
De
il y a des critiques admirables.
Je suis tout à fait d'accord.
Il y a des gens qui ont lancé des artistes, qui les ont suivis,
je
qui les encouragent de partir.
C'est la méchanceté gratuite et blessante.
C'est la méchanceté
et blessante.
Ouais, voilà. Ça n'a rien à voir avec le métier de critique.
Oui, mais cela dit, c'est quand même les critiques qui ont la place et la possibilité de le faire. Bref.
Audrey, on va avoir plein de temps de parler de plein de choses encore. Je voudrais laisser suffisamment de temps à Béatrice Voirin pour s'exprimer après qu'elle ait dégluti. Puisque votre pièce s'appelle Indocile, est-ce qu'on peut donner une définition des enfants indociles ? Tout à l'heure, j'ai dit difficile à éduquer, est-ce que c'est ça ?
Non, ce sont des enfants qui se sont adaptés à une situation.
D'accord. Ouais. C'est-à-dire une absence de repères, à une absence...
C'est-à-dire que pour un enfant, son parent est son modèle, son unique modèle. Donc Audrey le décrit très bien. Donc du coup, l'enfant va s'adapter à la façon dont il imagine que ses parents attendent de lui quelque chose.
Les parents...
Je ne sais pas si c'est un docile, c'est adapté.
D'accord. Les parents, on a toujours le sentiment, quand on est parent, de commettre des erreurs et de ne pas être parfait. Ça fait partie du jeu.
C'est ce que dit le juge, souvent.
Bah oui, je pense qu'un parent idéal n'existe pas. Ça serait même dommage. Ouais. Ça serait
non, mais on culpabilise. On se dit, là, est-ce que j'ai bien fait de faire ça soit de punir, soit de ne pas punir. Enfin,
il y a un thérapeute très célèbre qui a dit il faut être suffisamment bon. Un parent suffisamment bon.
Donc mais est-ce qu'il y a une définition du bon ?
Alors, la définition du bon parent, d'abord, je ne me permettrai pas. Enfin voilà, on fait tous des erreurs. Peut-être que c'est un parent qui écoute.
Aïe, ça commence mal pour toi, Fred.
Qui entend aussi.
Ouais.
Qui est capable de supporter que son enfant n'est pas forcément ce qu'il aimerait avoir comme enfant. C'est-à-dire qu'il a il a sa propre...
Non, je vous écoute.
Identité, ouais.
Je vous écoute, vous dites que la qualité d'écouter, j'écoute.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un parent qui est capable de mettre des limites aussi ? Peut-être plus que de l'amour, je pense.
Plus des limites que de l'amour.
Ben, je pense qu'un enfant a besoin de limites. Ouais.
En tout cas,
cadre,
d'un
fait.
Cadre.
Ouais,
c'est ça.
Un vrai cadre.
Ouais. Mais moi, je prends souvent l'image de la rampe qu'il y a sur un balcon.
Ouais.
Et même si on ne s'en sert pas de cette rampe, il est important qu'elle soit là.
Ouais.
Et que les enfants, souvent, premier truc que fait un enfant quand il arrive près du rang, il prend la rampe et il la bouge pour voir si elle peut bouger.
Et il y en a même qui passent de l'autre côté en s'agrippant.
En tout cas, il a besoin. Oui, absolument. Je faisais ça quand j'étais gamin. Mais si mes enfants font ça, je deviens totalement dingue, évidemment.
Oui, vous êtes là.
Sauf si tu es au rez-de-chaussée.
Mais non. Mais c'est de tester les limites. Les enfants aiment tester les limites.
Si mon parent est suffisamment bon, il va pouvoir me laisser aller, en fait, au bord de la
rampe. Mais bon, ça peut être la bonté aussi.
Ben oui, aussi. Mais ça peut être aussi... je crois qu'un enfant, il a Mais moi, j'ai envie de dire, même avant l'amour, en fait, de vraiment de cadre et d'un parent, finalement, à l'écoute et cohérent.
Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres manières d'éduquer, pardon, que de s'inspirer? Tout à l'heure, Audrey nous disait que, justement, son papa avait finalement comme repère l'école, parce que la seule manière pour lui de s'en sortir de son milieu, de son enfance, son éducation, c'était l'école. Est-ce que, finalement, tous, on ne reproduit pas les schémas de notre propre enfance, notre propre éducation, de ce que nos parents faisaient, que ce soit d'ailleurs pour faire totalement l'inverse, on peut faire exactement la même chose.
Bah oui, on a un modèle, ce sont nos parents.
Donc, et quand vous disiez qu'il faut être cohérent, ça veut dire quoi?
Bah, la cohérence, c'est je suis ce que je veux pour mon enfant. C'est-à-dire que si je dis quelque chose, si je lui dis en hurlant « tais-toi !», je devrais peut-être commencer par arrêter de hurler moi, quoi. C'est être cohérent avec ce que je veux par rapport à ce que j'ai envie qu'il devienne.
Mais la cohérence aussi, c'est pas de... Parce que des fois, il y en a un qui dit qu'un soir, il va dire gris, et puis le lendemain, il va dire noir, et puis le surlendemain, il va dire blanc. Ça, c'est très confusant aussi.
La cohérence entre les parents aussi, c'est-à-dire être suffisamment équilibré, suffisamment attentif.
Mais être parent, ça veut dire aussi être un individu et pouvoir changer d'avis, et pouvoir éventuellement se laisser au gré du vent, changer un petit peu.
Ah, mais ça, un enfant ne peut pas comprendre. Non, mais si tu dis une chose un jour, et qu'une semaine après, tu as changé d'avis, l'enfant ne peut pas comprendre.
Mais quand on parle de cohérence, être en cohérence avec soi pour envoyer, mais pour être plus près de soi, quoi.
Oui, en fait, c'est d'arriver à comprendre que l'enfant, il a le droit d'exprimer et d'être entendu. Voilà. Et qu'à partir de là, on a le droit de lui mettre des limites, nous, en tant que parents, bien sûr, évidemment. Mais souvent, et c'est...
C'est quelque chose de très important que ce que vous dites, c'est la communication. C'est qu'il y ait un rapport qui se passe dans les deux sens.
Exactement. Et ce que vous disiez tout à l'heure, je vous écoutais et je trouvais ça très touchant. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, le parent n'entend pas l'enfant, en fait. C'est-à-dire qu'on demande assez peu à un enfant, tu ressens quoi? C'est quoi ton besoin? On lui dit, fais ci, fais ça, tu as eu des bonnes notes aujourd'hui, comment c'est pas... On lui demande assez peu. Et l'école, elle est pas très... Et je suis totalement d'accord avec vous.
Pour les pédales sous le...
Enfin, moi qui reçois un tout petit peu de temps en temps des enfants, l'école, elle est adaptée aux gamins qui rentrent dans le moule.
Et d'ailleurs, souvent, quand les enfants jouent, à imiter ce qui se passe à l'école, c'est que coercitif. C'est en fait, une maîtresse qui dispute les élèves parce que ne fait pas ci, ne fait pas ça, ne va pas là.
On leur apprend le pouvoir, on leur apprend la guerre, en fait, à être plus fort, à avoir des meilleures notes.
Et puis on leur apprend à pas bosser avec le voisin, alors que toute la vie, quand même, nous invite à travailler ensemble. Il y a comme un contre-modèle, un contre-schéma, c'est très.
C'est notre éducation judéo-chrétienne depuis longtemps, quoi.
Le seul conseil donc essentiel que l'on pourrait donner à tous les parents qui nous écoutent et qui ont toujours le sentiment
arrêtez de faire des gosses.
Si nous écoute, ça fait longtemps que vous arrêtez.
C'est d'écouter les enfants, de garder la communication.
Déjà de comprendre, d'avoir le droit de se tromper. D'accord. C'est là où important.
Donc de déculpabiliser.
On est suffisamment bon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être parfait tout le temps, ni vous, ni moi. Par contre, ce que nous, on voit en tant que thérapeute, c'est les enfants. En fait, comme tous les êtres humains, on a besoin d'être entendu. Et ce qui fait souffrir, c'est de ne pas être entendu. Dans ma souffrance, dans ma demande.
À partir de quel âge un enfant devient un être humain? Non, mais vraiment?
Non, mais toi, t'es juste un enfant avec une barbe et plus de cheveux, c'est tout. On est tous des enfants et on prétend être adulte.
Je suis tellement d'accord avec
c'est
ça.
C'est honteux, Dana, vous inquiétez pas.
J'ai trouvé ça tellement juste, c'est tellement vrai. Les gens, ils attendent de devenir adultes et puis quand ça vient pas, ils se disent, bon, on va mettre une cravate et on va faire semblant. Et ça les rend très malheureux parce qu'ils pensent qu'il y a un moment où on devient adulte, mais n'importe quoi.
Merci Béatrice Vain, merci mille fois d'être venu. Tanguy Pastureau, David Guetta, bonjour.
Bonjour Nagui.
David Guetta refusait d'assurer ses doigts.
Oui, et pourtant il compose sa musique avec deux de ses doigts, hein, mais il ne veut pas les assurer en cas de perte. Ainsi se les fait bouffer par un pitbull ou Gilles Verdez, direction Pôle emploi. Alors que des tas d'autres stars font assurer leurs fesses, leurs jambes, leurs boucs pour Manuel Valls. Tour d'horizon des contrats d'assurance délirants des people.
Merci, à tout à l'heure Tanguy Pastureau. C'est la bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïla Kadour-Boudhaïdi.
Bonjour
Daniel Morin.
Ah bravo Daniel.
Tanguy Pastureau.
Salut Tanguy.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Albert Algou.
Yes.
Et tout ce beau monde, cette bande originale pour Audrey Dana.
Yes. Audrey.
Audrey Dana qui signe Indocile, un spectacle que vous portez depuis longtemps, j'imagine, parce que il vous parle, il résonne. C'est évidemment essentiellement basé sur une histoire vraie, même s'il y a plusieurs portraits, 14 portraits, puisque vous l'avez coécrit avec Muriel Magellan, qui vous a aidé à certains de ces portraits. Mais on vous y retrouve, on vous y voit, on vous y reconnaît, et c'est extrêmement touchant, c'est émouvant. Il y a des moments.
C'est drôle un peu aussi.
C'est drôle un peu aussi, mais ça fait pleurer aussi.
Ouais.
Ça fait pleurer, vous le sentez, vous devez le sentir qu'on est troublé nous dans la salle aussi.
Oui, je sens, surtout que je regarde les spectateurs à la fin du spectacle, donc je...
Vous regardez vraiment, vous demandez le plein feu et vous dites je veux voir la tête que vous avez.
Ouais. Ouais, ça me semble important.
Non, c'est original.
Non, oui, mais moi j'aime les gens, j'ai envie de savoir avec qui j'ai partagé ce moment. C'est pas rien quand même, la proportion de chance qu'on se retrouve tous là réunis. En plus, ils se sont déplacés vraiment pour entendre une histoire qui m'est très personnelle, que je porte en effet depuis des années. Donc ça me touche beaucoup. Et j'avais envie de faire, parce qu'on dit c'est émouvant et tout ça, mais il y a aussi des moments drôles. Et puis j'espère que, et vous allez me dire, mais que c'est pas une émotion plombante. Moi j'avais envie de faire un spectacle qui donne envie de vivre plus fort.
C'est enrichissant. Exactement. C'est enrichissant parce que ce qu'on a dit tout à l'heure avec Béatrice, c'est-à-dire que on apprend d'abord que tous les parents commettent des erreurs. On apprend aussi que nous, en tant qu'enfants, on a peut-être aussi eu telle ou telle éducation. Ça recadre un tout petit peu les choses.
Ouais, y a beaucoup de gens qui revisitent, voilà, soit leur lien à leurs enfants, soit celui à leurs parents.
Et on se dit que vous, finalement, vous en êtes super bien tiré. C'est-à-dire qu'il y a aussi, est-ce que cette force-là, vous auriez eu la même force ou pas avec une autre éducation, on ne sait pas.
Mais je vais même vous dire, j'ai la sensation quand j'étais un petit bout de fille, quoi, 6-7 ans, j'étais un peu peste, j'étais un peu espiègle, j'ai pas le cœur très ouvert, franchement. Et de vivre.
Et votre sœur Lumière, la grande sœur, elle est pas super cool non plus. Hein.
Ben, la pauvre, elle portait tout. Elle portait tout, ma grande
sœur.
Aînée,
c'est ça.
Ouais, ouais, voilà, c'est elle qui était et le maire et la mère et le père et tout le monde. Donc forcément, elle n'était pas cool. Elle avait envie, comme n'importe quel ado, de pouvoir lire ses bouquins et de faire un peu sa vie, de penser à elle. Et elle n'a pas pu. Elle n'a jamais pu. Mais voilà, famille... de vivre avec tous ces gens-là, tous ces enfants de la DAS, toutes ces personnes, de croiser autant de personnalités, ben mine de rien, ça ouvre l'esprit. Ça ouvre l'esprit.
Et puis, j'ai vécu ce spectacle aussi, pas uniquement comme une pièce de théâtre, mais comme un spectacle de danse, de musique, de son, de lumière. Enfin, c'est
ça s'appelle au sens.
On en prend plein les yeux. Ouais, y a tous les sens qui sont éveillés. C'est au Théâtre des Mathurins jusqu'au 18 novembre, porté par Audrey Dana. Ça s'appelle Indocile. Il est temps de retrouver celui qui tacle l'information, qui la maltraite. C'est Tanguy Passureau. Tanguy, qu'est-ce qui te fait rire, ça?
Il me fait tellement rire. Avec qui parle, je ris.
Non, mais c'est pas ça. Non, mais fais des mimiques.
Je dis bonjour aux gens.
C'est pour le podcast.
C'est le regard caméra.
Clin d'œil podcast radio.
On y va.
Tanguy, on a des nouvelles de David Guetta?
Oui, Guetta, c'est ce DJ coiffé comme un balai à frange et qui pourrait ambiancer une veillée funèbre chez les Mormons. Dès qu'il appuie sur un bouton, il fout le feu. Il a donc à la musique le rapport qu'a Kim Jong-un à l'arme nucléaire. Pour jouer ses tubes, il utilise deux doigts. Son conseiller d'orientation lui avait dit petit, plus tard, tu feras soit proctologue, soit DJ. Si bien que quand il se cure le nez, c'est comme si Anne Gravoin, femme de valse qui est violoniste, utilisait son instrument en tant que sextoy. Et là, il se prépare à sortir un nouvel album, nous dit Fun Radio, la station des kids qui déteste la musique puisqu'ils écoutent de la dance. Et il lui reste à choisir le single, ce qui est dur,
c'est
car dit-il, j'adore toutes mes chansons. C'est le Macron de la house. Tout ce qu'il a fait, il aime. Aussi bien les soirées Fuck Me, I'm Famous que sa chanson Sexy Beach. Là, il bosse sur son spectacle, Suck My Cock.
Non.
Et il a un projet de bouquin intitulé You Motherfucker, Go Fuck Yourself.
Non plus.
Alors cet été, il a accordé une interview au Daily Star, un tabloïd anglais qui se met en breaking news si on apprend que Beyoncé a des varices. Et là, il dit, j'ai failli faire assurer mes doigts, mon avocat m'a dit de le faire. Parce que s'il s'en coupe un, il perd 50% de ses capacités artistiques. Et s'il chope la lèpre après avoir mixé au Mozambique, que ses 10 doigts restent dans son calcif un jour où il se gratte devant le foot, il peut plus bosser du tout. En plus, il ne pourrait plus signer ses déclarations SACEM en tant qu'auteur du refrain « You're a bitch, move your ass, shake your tits and fuck off » et finirait pauvre.
Mais je sais qu'il y a des gens qui parlent anglais, tu dis des horreurs comme ça, mais on comprend.
Mais lui a refusé d'assurer ses doigts. Par contre, dit-il, je ne juge pas ceux qui le font. Et là, je me suis dit, Tanguy, mon amour, si Guetta dit ça, c'est que d'autres stars, elles, assurent leur corps et j'ai enquêté. C'est-à-dire que je suis allé sur Google. Hein, une enquête en 2017, c'est ça. Sherlock Holmes aujourd'hui, ce serait juste un mec qui dit Watson. Ce compte Moriarty s'est géolocalisé en mettant sur Instagram une photo de la panse de brebis à la saucerelle épinard avec patate au sucre qu'il est en train de bouffer. Allons le cueillir. Alors en fait, toutes les stars planétaires ont assuré un morceau de leur corps. C'est comme à la boucherie, mais en plus cher. Exemple, Julia Roberts, tout ça véridique, a assuré ses dents 25 millions de dollars. Une molaire pétée, ça coûte plus cher à la compagnie d'assurance que si Daesh détruit la Maison Blanche au Burin. Jennifer Lopez, la latine qui remue sa raie comme un pêcheur brestois qui veut voir s'il n'est pas mazouté, a assuré ses fesses 27 millions.
Ses fesses ?
Ses fesses, 27 millions, que ça. Ouais. Kim Kardashian, la bimbo, a assuré les siennes 21 millions et elle a, c'est véridique, 110 cm de circonférence de fesses. Hein, quand on passe derrière elle, ça compte comme un footing.
Il y a des stars qui ont assuré leurs jambes carrément.
Oui, la top modèle Heidi Klum a assuré les siennes 2 millions et la gauche est moins cotée que la droite car il y a une cicatrice. C'est-à-dire que si elle croise un Rottweiler, elle crie « Vas-y Rex, bouffe-moi la droite que j'encaisse le blé ». Une cicatrice fait donc chuter la valeur d'un membre et si vous avez un tatouage de François Bayrou sur un bras, il ne vaut plus rien, hein, même sur le marché du trafic d'organes. La poitrine de Madonna, que depuis 30 ans on regarde lentement chuter vers le sol, est assurée pour 1,5 million. Le visage de Claudia Schiffer, 1,6 million de dollars. Un bouton sur le nez à cause d'un abus de chocolat, pour un mannequin c'est un quart de carré, elle fout un procès à Galak. Gene Simmons, chanteur du groupe Kiss, a fait assurer sa langue 1 million de dollars. Il faut dire qu'elle fait 17 cm. L'été avec, il attrape des grilles. Un baiser mouillé avec ce type, ça tient moins du Frenchies que de la spéléologie. Alors sinon, Bruce Springsteen a assuré sa voix pour 5 millions de dollars. 6 pointes sur scène et se met à glapir tel le lapin qui voit arriver le chasseur boré. Les organisateurs sont indemnisés. Hein, alors que nous, ça fait 3 ans que les Kids United sont en train de muer en direct à la télé et on n'a toujours rien touché. Enfin, David Beckham, le seul retraité à rendre les filles humides comme du cake aux olives quand on a mis trop d'eau dans la recette, a assuré son corps entier 200 millions. Son corps, hein. C'est-à-dire que pour sa femme Victoria, lui faire l'amour, c'est périlleux. Hein. Faut pas abîmer le bestiau. Sinon, c'est elle qui paye, donc elle lui enfile une combinaison inifugée, et bien 8 heures à trouver l'organe viril qui vaut 40 millions au repos. Alors, il n'y a rien sur les stars françaises, c'est bête.
Tanguy Passion sur Inter.
Lundi sur France Inter.
Donc une journée spéciale en rock, hein.
Thématique aujourd'hui. Thématique.
C'est comme ça. Dans Indocile, Audrey Dana, est-ce que vous avez souvent à la sortie du spectacle des personnes du public qui viennent vous dire le bien justement que vous leur faites ?
Eh ben oui. Oui, souvent j'ai des gens qui attendent. Là, il y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a hyper touchée parce qu'elle m'a dit j'étais obligée de vous attendre pour vous dire bravo parce que là, vous voyez, j'ai envie de manger, j'ai envie de boire, j'ai envie de danser, j'ai envie quoi.
C'est
et
beau.
Ouais, ouais, ça m'a fait super plaisir. Ça m'a vraiment fait super plaisir. Non, oui, si, ils sont super sympas et souvent ils attendent à la fin.
Et là encore, dans ce spectacle, c'est comme dans Ring, vous incarnez une galerie de personnages. J'ai l'impression que c'est une forme qui vous convient parfaitement sur scène.
En fait, j'ai l'impression de pas être une, quoi. Ouais. En fait, on n'est pas aucun d'entre nous. Hein. On a tous des visages très différents selon la place qu'on a, d'ailleurs. Hein.
Selon l'heure aussi.
Et selon l'heure. C'est vrai. Selon l'heure, selon la façon dont on s'habille, selon la personne avec qui on parle. On n'est pas pareil avec son amant qu'avec son mari. On n'est pas pareil avec son enfant qu'avec.
Audrey.
Non, mais je déconne.
On vous entend.
Là. Oh, on peut rigoler. On n'est pas pareil avec son enfant qu'avec son meilleur ami. Donc on porte plein de visage et quand on est acteur, je pense encore plus. Donc c'est un grand kiff pour moi de voyager à travers les différents visages et les différentes énergies qu'on peut avoir. Et un peu comme les enfants, vous savez, quand ils jouent à la petite voiture et que maman les appelle à table, ils disent, ils sont à fond, vas-y, oui maman j'arrive, et hop, ils repartent aussi secs. Et pour moi, le jeu, c'est de cet ordre-là, quoi. C'est quelque chose d'aussi ludique que ça. On est là, puis hop, on n'est plus là, puis on va là, et puis donc plein de personnages, ça permet cette liberté-là. Et j'adore ça.
Et cette énergie sur scène, c'est-à-dire que vous êtes dans une forme olympique. Tout à l'heure, on parlait d'un malaise et d'un problème. De panique attaque, un problème plutôt de médicaments qu'autre chose avec Johnny Hallyday. Moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'est que vous étiez en forme et en pleine forme. Alors, vous parliez de l'alimentation. Ça veut dire que vous avez une hygiène de vie qui est là pour servir cette forme ?
Exactement. C'est-à-dire que j'ai appris au fil des années
à m'alimenter. Il y a beaucoup de choses qu'on nous pousse à acheter en nous sans croire qu'elles sont très bonnes pour la santé. Je peux dire des trucs comme ça
oui,
ou pas
bien sûr, oui, bien sûr.
Donc par exemple, le jus d'orange le matin, c'est un mythe, quoi. C'est hyper mauvais pour la santé.
C'est du sucre. Non, c'est du sucre pur.
Mais au goût, c'est bon.
Pardon.
Deux secondes. Vous dites quoi? La bouteille de jus d'orange.
Manger une orange, ce sera toujours bon. Manger un fruit avec sa pulpe, c'est toujours bon. Le jus de fruit, c'est autant de sucre qu'un Coca-Cola. On n'a peut-être pas le droit de dire de marque qu'un soda, on va dire. Donc c'est beaucoup de sucre.
Il faut préciser que les vitamines dans le fruit, dans l'orange en l'occurrence, sont la partie blanche, c'est-à-dire le zyste, la partie blanche qui est entre la peau et l'orange,
exactement.
C'est là où il y a les vitamines.
Et en fait, dissocier le fruit de sa pulpe, voilà, c'est
même
pas
une
nous
orange,
donner des vitamines.
Une orange pressée, c'est moins bon qu'une orange mangée.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que un jus d'orange sur un ventre vide, c'est catastrophique pour le pH de notre ventre, hyper acide. Et alors que un citron qui nous semble acide en bouche, c'est la meilleure chose qu'on puisse offrir à notre corps. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Les produits de lait de vache, c'est hyper toxique pour toutes les personnes qui ont passé 12 ans. C'est une réalité. On n'est pas fait pour manger et boire des verres de lait, ni manger du fromage de vache. La brebis, la chèvre, c'est différent. Et le blé, aujourd'hui, dans la manière dont il est produit il y a 50 ans, tout ça n'était pas un problème, évidemment. Mais
donc pour vous, en fait, c'est pas de pain, pas de lait de vache
et plein de pain, mais du pain avec des bonnes graines et sans blé, voilà. Et puis, plein de produits laitiers, mais de brebis et de chèvres, et pas de sucre. Sauf le sucre des fruits, évidemment, avec leur pulpe.
Pas de sucre industriel.
Mais le sucre, c'est, il n'y a en fait aucun avantage à consommer.
Vous mangez rien.
L'alimentation très tard.
Ça veut dire qu'il y a plein de choses que vous mangez pas.
Plein de choses que je mange pas.
Mais la viennoiserie, c'est pas possible. Les gâteaux.
La charcuterie, la viande rouge non plus, mais c'est vraiment écologique.
Surtout plein de choses que tu peux manger.
Non, mais alors du coup, vous mangez quoi?
Bah, tout.
Ah, je mange énormément, mais je mange des fruits, je mange des légumes, je mange du pain sans gluten. J'ai des bonnes adresses où je trouve du pain, mais je peux manger deux dans la journée. Je mange beaucoup. Il y a des gens, comme je ne suis pas très épaisse, qui pensent que j'ai un petit appétit de petit oiseau. Pas du tout. Oh là là, je mange. Je mange beaucoup même. Et je mange des gâteaux, mais sans gluten.
Des féculents.
Et du riz, qui ne sont pas transformés. Riz, patates. En fait, tout ce qui sort de la terre, d'ailleurs, c'est bon pour la santé. Tout. Tous les fruits, tout ce que nous donnent les arbres et tout ce que nous donne la terre.
Si je peux me permettre de vous essayer les pâtes camoutes, les pâtes avec la farine complète.
Oui, absolument, elles sont bonnes. Et il y a quelques de pâtes de farine de riz, tout ça qui sont pas mal.
Et quand on craque, quand on fait un vrai repas où on craque, ça veut
je
dire.
Je fais des vrais repas et je craque et j'ai mais bon vraiment hein, j'ai plein d'excès, j'ai même des moments où je suis.
Et viande poisson ou pas?
Un tout petit peu de viande blanche, un tout petit peu de poisson, mais plus du tout de viande rouge. Et ça, c'est vraiment un parti pris. Militant écologique, parce que quand on sait ce que ça consomme, en fait, d'abord c'est 2 semaines à digérer un steak, il faut le savoir, 2 semaines de digestion, donc ça fait bien mal au ventre quand même, sauf qu'on est tellement habitué à vivre avec la douleur qu'on s'en rend pas compte. Et ensuite, 1 kilo de viande rouge, c'est 1600 km en voiture. En termes d'empreinte carbone, c'est énorme.
Il y a
énorme,
des restos qui sont plus près quand même.
Non, c'est trop.
Vous mangez quoi? Il faut des sources de protéines, il faut manger des œufs, il faut manger.
Moi, je mange des œufs, je mange du soja, évidemment, et beaucoup, enfin, du tofu, et énormément de lentilles, de pois chiches, les noix, c'est plein de protéines. Enfin, en fait, on peut trouver tout ce qu'il faut et je suis en carence de rien, quoi.
Audrey Dana est en spectacle au théâtre des Mathurins avec Indocile jusqu'au 18 novembre. Voici le rêve de Daniel Morin. Oui.
Ah, Audrey Dana, je suis désolé.
Quoi?
Oui, je suis désolé qu'on vous reçoive dans de telles conditions. Mais oui, la grippe fait des ravages et comme d'hab, personne ne va aller se faire vacciner. Du coup, dans le bureau, tout le monde crache, c'est l'enfer. Mais là, je suis désolé en plus parce que pour vous, c'est trop tard. Ça fait plus d'une heure que vous êtes avec nous. Vous avez forcément attrapé la grippe. Vous sentez vos yeux qui commencent à piquer?
Pas du tout.
Ça va pas tarder. Ouais. Bref, une ambiance qui pollue mes nuits, aussi angoissante que dégueulasse. Dans mon rêve, je suis plongé dans l'enfer des microbes et de la fièvre. Je suis dans les couloirs contaminés de France Inter en compagnie d'un homme qui a tout vu au chapitre de l'enfer, le maréchal Ganache. Waouh. Oh la vache, c'est quoi cette odeur?
C'est Augustin Trapenard.
Trapenard, mais qu'est-ce qu'il a?
On l'a retrouvé mort ce matin, sur la photocopieuse. Ouais. Il est en train de pourrir.
C'est horrible.
Ah, c'est ça la grippe, soldat, c'est sans pitié.
Vous, ça a l'air d'aller, je trouve que vous allez en pleine forme.
Affirmatif. Moi, j'adore cette ambiance glauque. Ça me rappelle le combat. Ça me rappelle le Vietnam, le Tonkin. C'est pour ça que j'aime bien Fred Sigrist et sans fort, et sans la bataille, et sans pas aussi fort que le rédacteur en chef de l'émission, ceci dit.
Vous trouvez qu'il sent fort, Jean-Baptiste Bussière ?
Une abomination. Sa jambe opérée récemment et qui s'est infectée, ça sent charnier. Son haleine, c'est tellement troublé. Son haleine a des rangs de poisson mort. Ah, sans vrai. Parler de l'odeur de ses pieds, qui n'est pas sans nous rappeler sa ville d'origine, Coulommiers. J'adore ce garçon. Tout chez lui me remémore l'apocalypse olfactive des conflits les plus sales, qui sont les meilleurs.
Sinon, vous êtes fait vacciner, Maréchal ?
Négatif ! Le vaccin, c'est pour les tapettes.
Oh. N'avez pas peur d'être touché par la grippe,
vous ? Pauvre fou, tu n'as rien compris. La grippe, c'est la chaleur. La chaleur, c'est la guerre. L'année dernière, j'ai été malade comme un chien grec.
C'est malade comment, un chien grec ?
J'en sais rien, c'est vous qui écrivez les conneries que je suis en train de raconter.
Oui, je vous en prie. Poursuivez.
L'année dernière, j'étais hyper malade. Eh bien, c'était génial. Quand je toussais, c'était apocalyptique. Un matin, j'ai craché un truc au sol, on aurait dit un bol de gelée renversé.
Oh.
Mais oui, ça sentait la papaye. Je crois bien que j'ai craché. Non, je crois que j'ai craché des morceaux qui remontaient au conflit de 53, quand je mangeais exotique.
Ah mon Dieu, attendez, regardez là-bas. Il y a quelqu'un qui nous fait signe, là. Il nous fait signe, il a l'air d'avoir mal. Ah ! Oh, merde, c'est Nagui !
Enfin, ce qu'il en reste.
Ah !
Oh, je supporte pas ces gens qui se plaignent tout le temps.
En même temps, ça a pas l'air d'aller, regardez, il saigne des oreilles.
parce que j'écoute vos vannes, c'est pour ça que
Aidez-moi le relever, on va lui donner du doliprane.
Trop tard, il est foutu. Dans 5 minutes, il y a du pu qui va sortir de ses yeux. Il va vomir de la mousse. Il va uriner dans tous les sens, c'est la fin.
Ah, attendez. Je crois qu'il a juste une forte fièvre. Allez, aidez-moi. Enfin, vous êtes malade, vous avez buté Nagui.
Négatif, je lui ai rendu service.
Ah non, merde, Maréchal. Il avait une famille, une femme, des enfants.
Ah, c'est ça la grippe, soldat. Ça fait pas de prisonnier.
Bon, je vais récupérer sa femme, hein. On peut pas la laisser dans le chagrin.
Et les gosses ?
Bah, la DAS, je vois que ça, moi. Hein. Moi, je me suis réveillé en sueur, j'étais en panique totale. J'ai immédiatement appelé Madame Guy, hein, pour lui dire que j'étais là, que tout allait très bien se passer. Et là, dans mon rêve, elle me passe Nagui au téléphone. Et là, ça s'est mal passé.
Merci, Albert et Daniel.
Nagui, sur France Inter.
Alors, pour l'anecdote, vous avez dit à Gilles Lellouche, il y en a marre de ces films qui font la part belle aux hommes dans les comédies, j'ai envie d'écrire une comédie uniquement sur les femmes, d'où l'idée de Sous les jupes des filles. Et maintenant, vous vous dites, tiens, si je faisais Sous les jupes des garçons, entre guillemets,
non.
C'était...
Non, mais ouais, ouais,
c'est un peu ce que vous avez évoqué en disant, vous les hommes, c'est
vous
ça ?
Vous les hommes, exactement. En fait, j'avais envie d'une comédie, un truc où les filles sont drôles aussi. Parce que dans les comédies, c'est souvent des hommes les rôles principaux. En tout cas, ça les C'était encore très vrai il y a
j'entends,
plus de 5
ans. J'entends, ça c'était pour Sous les jupes des filles. Mais alors, voilà. Pourquoi revenir à une comédie sur les hommes pour vous moquer des hommes ?
Non, je ne veux absolument pas me moquer des hommes. Au contraire, c'est pour me réconcilier avec eux et c'est pour qu'on se réconcilie avec. Ce n'est pas une comédie sur les hommes, c'est une comédie sur les hommes vue par les femmes. Ce n'est pas pareil. C'est pour ça que ça s'appelle Vous les hommes. Donc ce sont des femmes qui écrivent. Évidemment, je vais interviewer beaucoup d'hommes pour ne pas dire de bêtises. Mais parce que, en fait, parce que j'ai écrit une série pour France 2 et que j'ai travaillé sur Si j'étais un homme, j'ai rencontré beaucoup d'hommes et je me suis rendu compte qu'en fait, les hommes ne parlent pas de manière 100% honnête avec leurs femmes, parce que ce sont leurs femmes, donc ils peuvent pas tout dire, mais pas parce qu'ils ont forcément des secrets, mais parce que c'est de la pudeur, ils ont pas, voilà. Entre potes, on a plutôt tendance à se dire ça va,
pas des vrais problèmes.
On regarde le foot, mais on ne parle pas. Et en fait, les hommes aujourd'hui, en règle générale, bien sûr, il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle. C'est compliqué pour eux de trouver leur place parce que justement, la femme s'est métamorphosée à la vitesse de la lumière en 50 ans. Et donc avant, c'était basique, c'était le mec qui apportait la bouffe sur la table, tout était clair, tout était à sa place. Et ça ne veut pas dire que c'était la bonne place. Pour eux, d'ailleurs, les premiers. Mais au moins, il y avait un cadre. Aujourd'hui, ce cadre a explosé. Mais les mecs n'ont rien demandé.
Il faut qu'ils apprennent qu'il y a une nouvelle place, c'est
exactement.
Tout.
Ah oui. Exactement. Mais Nagui, vous êtes, je pense, un homme moderne. Très moderne. Et il y a beaucoup de... D'abord, on porte...
J'ai eu sa femme au téléphone, elle est en
larmes. C'est pas ce qu'elle dit.
Elle est en larmes, elle chie, là.
Mais... Voilà, il faut en effet trouver sa place,
comprendre qu'il y en a une nouvelle et qu'elle est pas moins bien, qu'elle est même beaucoup mieux. Et puis surtout, j'ai envie d'emmener ces garçons vers des vraies confidences. J'ai envie d'entendre des choses sur les hommes et sur ce qu'ils ressentent qu'on n'entend pas parce que ils ne nous le disent pas. Voilà.
Elle est au théâtre des Mathurins. J'ai hâte de voir vous les hommes en tout cas. Hein. C'est en 2018 qui va arriver déjà.
2018, oui. Ouais. Et ça devrait être drôle.
Oui, ça le sera, c'est clair. Merci Audrey Dana d'être venue. Des excuses à présenter. Daniel Morin.
Bah, désolé pour Thierry Frémont dans la carrière. Le talent, la chevelure, les dents ont été souillées. Oui, souillées par Audrey Dana. Elle le prend pas mal, elle parlait de Thierry Frémaux ou Thierry Lafronde. Enfin bref, Thierry, désolé pour Lance Armstrong et Richard Virenque, entre autres, qui nous ont appelés à la pause pour postuler comme prof dans l'école d'Audrey Dana. Eh les mecs, des profs qu'on cherche, pas des dealers. Désolé pour Mel Gibson, qui a découvert ce matin qu'on pouvait, dans la vraie vie, se remettre une épaule déboîtée. Eh les gars, c'est ça, c'est du Audrey Dana.
Merci Audrey, portez-vous bien. Il a été très sage, votre chien, en tout cas, tout va bien. Ouais. Adorable. Ça s'appelle Indocile, c'est au théâtre des Mathurins. Bonne journée sur Inter, à la prochaine.
Merci la bande et à demain.